Des zèbres dans l'église. Un podcast à haut potentiel.
Bienvenue à chacun pour cette rencontre. Depuis un an, un peu plus d'un an, nous allons à la rencontre de certains d'entre vous. Et moi, je suis un privilégié parce que j'ai accès à vous et vous avez accès à moi. Donc, je suis un petit peu au carrefour des rencontres. Et aujourd'hui, une très belle rencontre avec Estienne. Bonjour Estienne.
Salut David, merci pour ton invitation.
Merci d'avoir accepté surtout. Alors, on va y aller direct. La question la plus compliquée, ça sera la première. Qui es-tu?
Qui suis-je? Je m'appelle Estienne. Je suis un artiste multifacette. Je fais de la musique, je fais des films. J'ai développé un studio de création. J'ai donc du coup cette double casquette à la fois du son et de l'image, et la relation entre les deux m'intéresse beaucoup. J'ai exploré différentes casquettes dans cette chose-là. Je fais voilà, je réalise, je compose, je produis de la musique pour d'autres, pour moi. Et puis j'ai développé aussi une casquette de directeur artistique. C'est-à-dire que voilà, je suis des projets événementiels, différentes façons de créer avec d'autres, voilà, dans les milieux à la fois de la musique d'où je viens, mais aussi de l'art contemporain un petit peu. Et puis dernièrement, j'ai commencé à explorer le monde de la mode. Voilà.
Génial. Et d'ailleurs, j'y pense, 100% des personnes qui t'entendent aujourd'hui ont déjà entendu au moins une de tes œuvres.
Ah bon?
Eh bien oui, puisque c'est toi qui as fait le jingle de cette émission.
Ah, c'est vrai. Ah oui, t'as raison. Oui, j'avais bien aimé travailler sur ce jingle. Merci de l'avoir retenu. C'est sympa.
Merci à toi de l'avoir fait. Alors, on en passe toujours par là quand on demande à un zèbre ou une personne atypique de se présenter. C'était comment pour toi l'école, le collège, le lycée?
C'était assez terrible. Ce qui, enfin, terrible, c'est un grand mot. En tout cas, ce que je retiens, c'est que j'ai eu l'impression d'être endormi pendant toute cette période. J'ai beaucoup attendu. Voilà, c'est quelque chose qui est revenu ces derniers temps quand j'ai un peu pris conscience de mon profil un peu atypique. J'ai pu regarder en arrière et je me suis dit, mais quel dommage de ne pas avoir voilà, pleinement eu des outils adaptés. Ou voilà, par exemple, j'ai découvert les mind maps la dernière année de mes études, quoi. Voilà, vraiment tout à la fin. Je me suis dit, mais pourquoi on m'a jamais parlé de ce truc, quoi? Évidemment, cette dernière année, c'était celle que j'ai le mieux réussi. Et après, je me suis dit, bon, je crois que j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie d'aller sur les terrains, l'exploration artistique. Voilà, donc c'est le regard que j'ai, c'est beaucoup d'attente, d'ennui, de pas comprendre quelle est ma place. J'ai reçu aussi des paroles pas terribles qui m'ont pas mal suivi, cette idée de élève moyen. C'est le pire truc, quoi. C'est ni chaud ni froid, c'est moyen. Et en fait, ça m'a pas mal suivi. Je faisais un minimum, le minimum pour que ça passe. C'est passé, c'était vraiment pas glorieux. Voilà. Et puis, dans la période du bac, c'était assez intéressant parce que c'est la période aussi où j'ai commencé à découvrir ce qui m'intéressait. J'ai eu la chance de faire un bac de cinéma audiovisuel. Enfin, c'est du coup une option dans le bac littéraire. Bah, c'est la matière qui m'a permis d'avoir mon bac, puisqu'elle a été coefficient, je sais plus, 6 ou quelque chose comme ça. Et j'ai eu une super note. Donc, je me suis dit, tiens, voilà, ça a commencé à m'interpeller. Je me suis dit, c'est bizarre, j'arrive à avoir un excellent résultat dans un domaine qui m'intéresse. Et j'ai eu des résultats catastrophiques sur des matières où je ne comprenais pas pourquoi j'étais là, en fait. Ça n'avait aucun sens. Je pense que la notion du sens, on pourra en parler un petit peu après, mais...
J'allais te
Ouais.
dire, on reviendra sur la notion du sens. Et pourtant, tu as quand même un petit peu continué la musicologie, tu l'as fait en suivant ou tu es revenu plus tard?
Ouais, j'ai continué, donc j'ai eu ce bac cinéma. Ensuite, j'ai fait des études de musicologie que je n'ai pas réussi, en fait, hein. Voilà, je le dis parce que ça peut encourager nos auditeurs. J'ai dû faire deux premières années, deux deuxièmes années, et puis au bout de la deuxième année que j'ai loupé, j'ai dit, bon, il y a peut-être un truc à faire, il y a peut-être un truc, autre chose à vivre. Le problème majeur, et c'est aussi un problème de maturité à ce moment-là, ou en tout cas de ne pas savoir comment être soi dans cet environnement universitaire, j'étais concentré sur ce qui m'intéressait profondément. Il y a certaines choses que j'ai récupérées, que je travaillais le soir plutôt comme un créatif, comme un artiste. Mais pas du tout comme un étudiant à l'université. Du coup, ça ne fonctionnait pas. Voilà. Et en fait, j'ai décidé j'ai fait un an en psychologie. Parce
OK.
qu'à un moment donné, j'ai découvert le soin de la personne, en fait. Je trouvais ça intéressant. Et c'est cette année-là où j'ai découvert les mind maps, par exemple. Et en fait, ça a très, très bien marché pour moi parce que j'ai eu du sens, justement, où j'avais cette idée, bah, si je veux accompagner des personnes, je dois être au top, en fait. Je dois vraiment connaître très, 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 très bien la discipline pour pouvoir être un bon accompagnant, quoi. Donc, c'était un petit peu ma démarche pendant presque un an. Donc, ça a bien marché. Et après, je me suis dit, non, non, il faut que j'aille sur les domaines artistiques, c'est là qu'est ma vocation.
T'as déjà reparlé une nouvelle fois du sens. On va y revenir plusieurs fois, je pense, mais tu m'as confié à un moment qu'il y a quelque chose, une rencontre qui a transformé ta vie, puisque tu es né dans une famille athée, et il y a une rencontre qui a donné du sens à ta vie.
Ben oui, celle du Christ. Évidemment, je savais qu'il voulait m'amener sur ce terrain. Oui, c'est la rencontre avec le Christ. Donc, je devais avoir 23, 24 ans, j'en ai 31. Oui, c'est ça, à peu près, 20, 23. Voilà, je l'ai rencontré dans une période extrêmement difficile dans ma vie. Donc, c'était voilà, fin des études, début où je commençais à travailler un petit peu en tant que babysitter. voilà, j'ai vécu des choses assez difficiles et j'avais pu côtoyer un petit peu l'église par-ci, par-là. C'est voilà, c'est dans cette période que cette rencontre s'est faite. Effectivement, ça a donné sens en fait à ma vie. Ça a réorienté, ça a réveillé en fait la personne que j'étais en profondeur. Et c'est dans cette période où j'allais dire, j'ai un peu je le dis un peu comme ça, mais cette sensation de commencer à sentir cette espèce de super pouvoir qu'on a là, les bandes de zèbres, ce truc de dire, ah mais tiens, j'ai un temps d'avance sur ça, tiens, il y a des gens qui me disent qu'ils n'avaient jamais pensé à ça, ou mais pourquoi les gens, ils trouvent que je vais vite, ou je sais pas quoi, enfin voilà, il commençait à y avoir ces signaux-là, et je pense que c'est ce canal de ma foi qui a permis en fait de pleinement faire ressortir la personne que je suis en fait. Et ça, c'est assez beau à vivre.
Est-ce que tu dirais que c'est le fait de te réconcilier avec toi-même, en te réconciliant avec le Christ, qui, parce que tu étais mieux dans ton âme, t'a permis de donner un peu plus de ton potentiel, ou j'extrapole un peu trop?
Je l'ai pas vécu comme ça. Ça pourrait être formulé comme ça. Mais c'est pas trop mal, c'est pas trop mal formulé. Il y a quelque chose de l'ordre de oui, de au contact de Christ, de se révéler en fait, ils nous permettent de révéler ce pourquoi quelque part on a été fait. Il y a un peu cette sensation-là, hein, qui est là, de dire, bah oui, je vois maintenant pourquoi j'existe en fait, hein. C'est une question hyper profonde. Que je questionne d'ailleurs tout le temps, parce que c'est un peu ma passion, c'est un peu ma question passion, pourquoi existons-nous? Et donc voilà, moi j'ai une grande passion pour les dimensions existentielles.
Et alors, pour alors ceux qui nous écoutent le savent, ce podcast s'appelle Des zèbres dans l'église. Tu as eu de la chance c'est que tu as débarqué déjà dans une église atypique.
C'est vrai.
Est-ce que ça aurait été pareil pour toi si tu étais tombé dans une église différente ou plus carrée?
Oui, moi j'ai la joie d'avoir atterri au Temple du Marais. Pour ceux qui connaissent, c'est vrai que c'est une église atypique. C'est difficile de savoir comment ça aurait été autrement. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je ne suis pas la même personne avant d'avoir commencé à être dans cette église. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une forte. Enfin, c'est fortement vécu la notion de liberté en Christ dans cette église. Et pour moi, ça résonne très profondément avec ce que je suis. Il y a eu, voilà, ça a fait des étincelles, quoi. Ça a très bien fonctionné. Donc j'ai trouvé rapidement ma place. Ils ont été aussi extrêmement accueillants parce que j'étais vraiment relou au début, à questionner tout le temps de tout. Pourquoi, oui, mais pourquoi vous faites ça comme ça? Pourquoi vous pensez comme ça? Pourquoi? Et en fait, il y a une grande bienveillance et aussi des réponses que j'ai trouvées très pertinentes, quoi. Enfin, ça n'a jamais été des réponses dogmatiques, en fait. Moi, c'était pas possible. Donc, du coup, ces réponses d'approfondissement, d'accompagnement spirituel, de comprendre le sens, en fait, de pourquoi est-ce que Christ vient nous chercher, pourquoi c'est pertinent, en fait, aujourd'hui, hein, pourquoi c'est pertinent de suivre le Christ, quoi. Et j'ai trouvé des réponses, à la fois des réponses tournées en question, hein, qui laissent des espaces de réflexion et des terrains de jeu, de la pensée et de la vie, de foi. Et en même temps, des réponses suffisamment structurantes sur comment on est constitué, corps, âme et esprit, comment on peut vivre en communauté, etc., qui sont su suffisamment solides pour pouvoir aussi s'appuyer dessus et appuyer certaines certitudes. Donc voilà, j'ai trouvé un bon équilibre.
À ce moment-là, tu n'es pas encore conscient, ou en tout cas, tu n'as pas encore mis de mots sur ton atypie. Quelque temps après, si tu regardes cette époque, est-ce que tu as aussi rencontré des gens comme toi? Pas que des croyants, mais aussi des gens qui fonctionnaient un peu comme toi ou qui pouvaient comprendre tes questions pour ce qu'elles étaient en vrai et pas juste les questions d'un mec relou.
Ouais, je pense que j'ai commencé. Hein, c'est un peu le principe. J'ai pas creusé énormément, mais le principe des zèbres, un peu, ils se retrouvent entre eux, quoi. Donc, assez rapidement, je me suis rendu compte que les personnes que je fréquentais, et puis où ça fonctionnait bien, bon, il y avait une certaine atypie. Oui, assez rapidement, il y a des personnes qui ont pu vraiment accompagner ce process, quoi. Ouais, donc. Ça, c'était riche et je me rends compte que c'est une vraie. Je suis très privilégié, en fait, dans une église atypique, en plein Paris. Donc, il y a beaucoup de personnes qui passent, il y a un grand turnover, enfin, c'est foisonnant, il y a beaucoup de vie. Enfin, c'est parfait, on ne peut pas tourner en rond. Et on sait tous que pour une personne un peu atypique, tourner en rond, c'est dur, quoi. Voilà.
Tu m'as confié aussi que tu avais rencontré celle qui est aujourd'hui ton épouse. Et ça m'a ému quand tu me partageais le fait qu'elle se renseignait depuis qu'elle savait qu'est-ce que tu étais, qu'elle se renseignait pour voir comment elle pouvait être cette aide à tes côtés. Tu as envie de nous en parler ou c'est trop privé?
Oui, je peux en dire deux mots. Elle est merveilleuse, ma femme. Je trouve qu'elle a apporté un très beau témoignage de son amour pour moi en voyant aussi qu'il y avait des grosses difficultés. Puis ces derniers temps, cette sensation qu'on peut avoir de solitude, en fait, hein, on a l'impression, enfin voilà, qu'on est. Enfin, j'ai régulièrement, j'ai l'impression d'être sur une autre planète, clairement. Et au lieu de dire, mais redescends, sois concret, fais comme tout le monde, voilà, elle est là, ok, alors comment on peut prendre soin en fait de ce mari qui est à 10 km de toute réalité. Donc c'est assez beau à vivre, hein. Je suis très reconnaissant d'avoir mon épouse.
Ah mais je crois qu'on ne serait pas aussi épanoui si on n'avait pas les épouses que nous avons.
Ouais, ça, c'est une évidence, ouais. Merci les épouses.
Si on revenait au milieu du travail, au monde du travail, parce que c'est à peu près à cette époque-là, bah, tu parles 23 ans, tu as commencé à goûter au monde du travail. Tu m'as dit un truc, tu m'as dit, je suis inapte au salariat.
Clairement. Alors c'est drôle parce que déjà, ça m'est jamais vraiment passé par la tête d'être salarié. C'est juste, il se trouve aussi que je n'ai du coup quasiment pas de diplôme, ce qui n'aide pas du tout à trouver un travail dans une entreprise et avoir développé des compétences pas possibles dans des sphères créatives qui globalement sont pas très intéressantes pour la plupart des entreprises. Donc déjà, ça aide pas. Et puis j'ai grandi aussi dans une famille artistique. Enfin voilà, mon papa est artiste peintre, donc c'est un voilà. J'allais dire dans mon écosystème de pensée, bosser dans une boîte, c'est pas trop le truc naturel pour moi. Et puis je comprends pourquoi aussi, parce que voilà, j'ai ce profil assez entrepreneur, ou en tout cas. Cette fibre créative, la dimension créative de l'entrepreneur, en disant, et si on faisait ça, et si pourquoi pas, etc. Et donc, maintenant, aujourd'hui, ça va mieux, mais à cette époque-là, dans les choix qu'il fallait faire, etc., enfin, c'était impensable d'avoir quelqu'un qui me dit, qu'est-ce que je dois faire? C'est juste simple. C'est juste, voilà. Et puis, assez rapidement, c'est, mais il n'y a que le Seigneur au-dessus de moi, et puis, voilà, je fais ce que je veux de ma vie. Donc, ça ne fonctionne pas dans le monde de l'entreprise. Bon, aujourd'hui, évidemment, je module un peu, mais clairement, j'ai besoin de ces espaces de créativité qui sont, c'est vital en fait, sinon je ne fonctionne pas bien.
Tu parles de il n'y a personne au-dessus de moi, à part Dieu, je l'entends très bien. Et en même temps, je le sais pour être moi-même à mon compte, parfois nos clients sont presque plus exigeants que ce que pourrait l'être un patron. Comment tu le vis ça?
Mon problème, c'est que on vient me voir souvent pour justement un peu casser les lignes, quoi. Enfin, ou en tout cas, oui, on a tel projet, et puis je me retrouve à leur proposer un truc rien à voir, mais ils trouvent ça super. Mais voilà, enfin, ça arrive quand même très régulièrement. Quelqu'un me sollicite pour quelque chose, je dis, ah, c'est très intéressant, mais ça n'a aucun sens. Je vous proposerais plutôt ça, 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 parce que franchement, par rapport à là où vous êtes et tout, donc il me regarde des grands yeux et dit, ah oui, non, mais c'est pas bête, oui, pourquoi pas, etc. Voilà. Donc on reste quand même sur des sphères, voilà, on vient me voir pour réaliser tel type de projet. Bon, je leur propose autre chose, mais ça reste de la vidéo, par exemple. Bon, voilà, ils se retrouvent quand même avec un contenu qu'ils avaient à la base, mais souvent la sensation que ça donne, c'est ah bah c'est vachement mieux que ce qu'on aurait pu nous imaginer en fait. Y a plein de gens qui trouvaient ça super. Mais je suis sûr qu'il y en a d'autres qui trouveraient ça insupportable.
Donc pour l'instant, tu as eu de la chance dans tes clients, quoi.
Ouais, voilà. Mais après, on attire ce qu'on est aussi, hein.
Oui, c'est vrai. Effectivement, comme tu proposes des produits atypiques, eh ben, ça
Ouais,
marche.
on a des clients atypiques.
À cette époque-là, quand tu commences à te lancer, ton atypie est cachée sous ton profil créatif. Donc pour toi, toutes tes particularités, c'est juste parce que tu es un créatif, tu es un artiste, et cette étiquette, tu l'acceptes, tu vis bien avec. Comment tu es arrivé à cette question, est-ce que je suis un zèbre, est-ce que je suis HP? Et comment tu as résolu cette énigme?
Alors, en fait, en fait, ce qui a déclenché ça, c'est-à-dire que quand on a un profil créatif et qu'on a un peu sa boîte de prod et qu'on développe des projets, en fait, moi, j'ai bossé, voilà, ces 8 dernières années, j'allais dire, bah, j'ai bossé tout seul. et avec une détermination à être 100% autonome dans tout ce que je fais. Donc, ça étonnait un petit peu à droite à gauche quand je disais, ah bah oui, ça je maîtrise, ça je maîtrise, ça je sais faire, ça machin truc. Bon, ah oui, d'accord, ok. Mais voilà, cette détermination à pouvoir tout faire tout seul sans demander rien à personne. Bon, c'est un peu maladif, hein. Et ça fonctionne pas à un moment donné parce que j'ai découvert la joie de travailler en groupe, en fait. Et c'est dans des projets, notamment d'église, où bah, évidemment on ne fait pas les choses tout seul, sinon ça n'a aucun sens, qu'il y a y a eu des tensions dans les projets, parce que soit j'allais trop vite, soit j'étais pas clair, soit je proposais des trucs, mais l'équipe avait dit, maintenant, mais on va faire ça, et puis moi je pars ailleurs. Enfin, c'est voilà, c'est relou, quoi. Donc, c'est peut-être là où j'ai commencé à être confronté à ça. Ça pouvait plus exactement se cacher derrière un profil créatif, puisqu'il y avait d'autres aussi, d'autres créatifs, mais qui n'avaient pas du tout ce syndrome. Donc, je me dis, commence à y avoir quelque chose. Et puis, au fur et à mesure, en fait, il y a aussi un élément assez central, c'est que jusqu'à relativement récemment, je pensais très sincèrement que tout le monde fonctionnait comme moi. Mais vraiment. Genre, pour moi, enfin, tout le monde allait réfléchir de la même façon, etc. Ce qui est complètement absurde, on est d'accord, hein. C'est absurde en soi pour tous les êtres humains, c'est-à-dire que chaque être humain fonctionne, est unique, donc forcément il a son propre fonctionnement, donc c'est complètement à côté de la plaque, mais c'est encore plus à côté de la plaque quand on se rend compte qu'on a des facilités sur des trucs et on pense que les autres ont les mêmes compétences, les mêmes facilités. Et ça, c'est, il faut y faire hyper attention, parce qu'en fait, régulièrement, j'avais l'impression que les gens, soit ils se sentaient bêtes à côté, ils se sentaient dévalorisés, soit ils n'arrivaient juste pas à s'inscrire dans le projet que moi je voulais mener en groupe, ou enfin juste voilà. Donc c'est à ce moment-là où ça a commencé à émerger. Et puis, au fur et à mesure, dans les différents projets que j'ai pu mener, il y a quelqu'un qui est venu me voir en me disant, mais toi, t'es un peu HP sur les bords. Je lui réponds, moi, mais pas du tout. Je suis pas intelligent. Je n'ai pas réussi. Je n'ai pas eu 22 sur 20 en maths. Évidemment que non. Je ne suis pas HP. Et tout. Ah bon, si, si, quand même. Enfin, faudrait que. Voilà. Et donc, ça m'a mis la puce à l'oreille. Et puis, c'est notamment une personne que tu connais, David, et qui dit tu devrais écouter le podcast de David, là, les hebdomadaires dans l'église et tout. Voilà. Et puis, j'ai commencé à écouter un peu. Et puis, c'était gênant, quoi. C'était vraiment les premiers épisodes, étaient extrêmement gênants, puisque je me suis dit, enfin, j'ai l'impression d'avoir été spotted, quoi. Enfin, genre en mode mis en lumière, en mode tétanisé, en disant, qu'est-ce qui est en train de se passer? Moi, je pensais être quelqu'un de normal, tu vois, genre un peu en mode laissez-moi tranquille, quoi. Ah oui, d'accord, en fait, il y a quand même un certain nombre de critères, voire tous, qui sont décrits, que je vis au quotidien et qui, quand même, sont pour moi parfois un peu difficiles à vivre, pour d'autres très relous dans des problèmes. Donc je me dis, ah, c'est peut-être la source du problème. Voilà. Et puis après, j'ai commencé à faire ce process pour découvrir. Je ne sais pas si c'était là où tu voulais aller.
Ouais, j'allais te dire, quand tu m'as contacté la première fois, tu te posais encore des questions et puis tu as ressenti le besoin de passer le test. Comment ça s'est passé pour toi?
Ben, assez bien. J'ai fait ce test-là parce que effectivement, ben moi de toute façon, depuis ces périodes de rencontres avec Dieu, enfin, je suis un peu obsessionnel sur moi. Quand je mets le pied sur quelque chose, il faut que ce soit solide. Enfin, voilà, il faut que Je suis certain que ça. Donc, je ne vais pas spéculer en disant oui, peut-être que effectivement j'ai quelques trucs, mais bon, voilà. C'est comme c'est sur d'autres les gens qui disent non, mais lui, il est un peu pervers narcissique. Genre, vas-y, calme-toi, tu vois. Donc, j'aime pas les étiquettes comme ça posées sur les gens. Et d'ailleurs, des fois, voilà, je dirais qu'il faut se méfier aussi de cette étiquette d'HP, de zèbre, parce que on reste quand même des êtres humains. Mais donc à ce moment-là, j'avais besoin d'avoir quelque chose un peu tangible. Et effectivement, le côté un peu la science, le côté on va passer devant un neuropsy dont c'est le métier, ça a quand même du poids. Et ça a révélé un profil hétérogène, comme on dit. Donc, en fait, bon, c'est pas que ça a servi à rien, mais globalement, ils n'ont pas vraiment détecté des trucs, voilà, mais ils ont détecté quelques bugs dans le système. Donc, ça c'est quand même particulier. Et oui, et notamment, ça a posé, par exemple, pour moi, avec cet esprit créatif, ça a posé des choses en disant, ah oui, je suis plus compétent ou je m'épanouis plus quand il n'y a pas de cadre, en fait. Voilà. Et donc, ça a mis un mot en disant, ah bah oui, depuis toujours, je cherche à sortir de la case, en fait. Il n'y a rien qui dans ma vie qui a été autrement, en fait. J'ai toujours cherché à la tangente, quoi. Donc, ça a permis clairement de poser des mots. Et après, une fois qu'on pose des mots, tu dis, ah, ok, c'est plus facile à accueillir.
Tu m'avais raconté la petite anecdote qui explique, enfin qui t'a montré clairement que tu arrivais mieux quand il n'y avait pas de cadre. Est-ce que tu peux la raconter? Parce que je trouve qu'elle est très explicite. C'est pas juste je suis rebelle, il me faut pas de cadre, mais raconte-nous
Oui,
juste ce passage.
en fait, il y a un des tests qui, du coup, il faut construire avec des petites dés qui a une face de couleur et une face neutre, et puis qui sont aussi divisés en deux, là, enfin voilà, un peu en double face. Voilà. Bon, bref, il y a des petits cubes, et il faut reproduire tout simplement des figures avec ces cubes qu'on nous donne. Et donc, au début, on a quatre cubes, quatre petits dés, on fait la figure, et puis ça devient de plus en plus complexe avec, je sais plus, neuf cubes, enfin, il y en a de plus en plus. Et donc, on arrive à l'avant-dernière figure où je mets des plombes à trouver. C'est hyper dur, quoi, j'en sais rien, voilà. Et la dernière image, je me rends compte qu'en fait, c'est le même genre de figure complexe. Mais sauf qu'ils ont enlevé l'espèce de losange noir qu'il y avait, qui est censé aider en fait à identifier. Donc on enlève le losange et moi, je l'ai fait en même pas 30 secondes. Enfin, c'était hyper facile. Là, la neuropsie, elle a fait genre intéressant. Et donc ça fait partie des choses où je me suis dit ça pose une réalité en disant quand j'ai pas de cadre, j'y arrive beaucoup mieux. C'est beaucoup plus facile pour moi. Donc voilà, ça en fait. Pour répondre à ta question, ça m'a aidé en fait à poser des choses et à dire ok, il y a des particularités et c'est juste bon de savoir qu'il y a des particularités pour avancer en fait.
Alors, je voudrais revenir juste 30 secondes, me retourner à nouveau vers ton épouse, vers ton couple, parce que justement, par rapport au cadre, tu arrives mieux quand il n'y a pas de cadre, mais en même temps, j'ai l'impression que ton épouse t'aide à en mettre un quand même en place, notamment par rapport à ta pensée en arborescence.
Oui, c'est vrai. Mais déjà, ce qui est rigolo, c'est quand même que j'ai pas, par exemple, pas de problème avec l'engagement, quoi. Enfin, d'avoir un cadre, genre moi, je suis fidèle à mon épouse, c'est le cadre, quoi. Donc, je vais pas sortir de ça. Ce qui pourrait, hein, dans ce que je décris, mais pas du tout. C'est pas du tout un truc qui est là. Donc, c'est intéressant de voir les différences et comment ça se manifeste et tout. Je trouve ça assez passionnant. Mais elle, oui, elle m'aide régulièrement à linéariser un petit peu ma pensée et d'attirer. Enfin, en fait, souvent, elle fait le lien, elle fait le trait d'union un peu entre les autres et puis moi, en essayant de. Elle attire mon attention, donc elle ne le fait pas, j'allais dire, physiquement. Elle dit pas, alors Estienne, il pense ça, nanana. Enfin, elle vient me voir, elle me fait. Alors, en fait, là, les gens vont penser que ça. Donc, peut-être que tu pourrais placer cette information en premier qui permettrait de. Ah, yes! Évidemment, c'est pas souvent, c'est qu'elle a raison à chaque fois. Ça aide beaucoup. C'est un gros challenge hein, de manager cette pensée en arborescence qui est quand même assez foisonnante et qui voilà qui a besoin en fait de étape par étape. Donc, en ce moment, là où je suis maintenant, en janvier 2024, c'est mon challenge, c'est d'arriver soit le arriver tout seul, soit tout simplement être avec d'autres qui vont m'aider en fait et qui vont compléter tout simplement. Et ça c'est très riche, je trouve, cette idée de complémentarité des intelligences, on va dire, hein, ou en tout cas des personnalités.
Tu nous as fait part tout à l'heure de ta frustration de ne pas avoir découvert les outils d'apprentissage autres, ceux qui auraient pu t'aider. Et aujourd'hui, tu es papa de deux enfants. Est-ce que tu t'es mis comme mission de fournir à tes enfants ces outils ou comment tu le vis?
Oui, alors mes enfants sont petits hein, encore. Ma fille a 3 ans et demi et mon fils a 2 ans, donc voilà, ils sont encore tout petits. Donc, mais effectivement, j'ai pu constater, notamment chez ma fille, des choses où je dis tiens, ça ressemble à quelque chose de particulier. Voilà. Pareil, on accompagne, mais il y a cette notion de responsabilité. Dire que voilà, quand on voit qu'il y a un profil atypique, ça veut dire que il y a une intention particulière et aussi quelque part peut-être un don particulier, un projet particulier pour cette personne, notamment avec cette facilité. Moi, je vois ma fille cette facilité au leadership, par exemple, et de dire que ce serait dommage de rabaisser ou d'abîmer cette facette-là que sans doute, le Seigneur va utiliser plus tard. Donc c'est un peu cette responsabilité. Après, c'est la responsabilité des parents, globalement, de prendre soin de leurs enfants, évidemment. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai à cœur de rassembler ces outils que moi, je vais utiliser quelque part au quotidien maintenant et de leur présenter, en tout cas, oui, de leur donner des astuces, des tips qui vont leur permettre d'être beaucoup plus fluides dans leur apprentissage. Et aussi, là, on a déjà fait l'expérience, même à 3 ans et demi, en fait, d'orienter, par exemple, sur le soin de l'autre, au lieu de s'ennuyer, de dire, bah, va aider telle personne, tel truc. Et c'est ça qui a aussi, j'allais dire, générer un peu son leadership. Enfin, tout de suite, elle a dit, ah, ok, moi, j'ai géré le truc déjà dans ma tête, donc maintenant, je peux aller aider, je peux prendre soin, je peux truc. Ça, c'est cool. Et donc, c'est des orientations, j'allais dire. Moi, j'aurais bien voulu avoir à ce moment-là, quoi.
Mais on le voit, hein, les élèves qui arrivent, qui réussissent à l'école, c'est ceux qui y prennent du plaisir. Et donc, si on ne peut pas trouver notre plaisir directement dans la matière qu'on nous apprend, essayer de développer des plaisirs annexes pour nos enfants, c'est merveilleux.
Il y a le plaisir et puis ouais, je suis relou avec ce mot, mais il y a le sens aussi. Pourquoi est-ce qu'on apprend ça? Et je vois que enfin là, quand je parle à ma fille notamment, quand je lui explique pourquoi est-ce qu'on fait ça comme ça, bah, déjà elle comprend, elle capte vite, et après elle me dit oui, alors papa, en fait, parce qu'on fait comme ça, parce que blablabla, et ça commence à mouliner et ça a donné du sens en fait. Donc du coup, moi, en tout cas, c'est mon expérience, c'est que je trouve du plaisir quand il y a du sens, en fait. Donc c'est voilà, c'est assez fou cette idée-là.
Alors, comme tu es reparti sur la quête de sens, j'en profite. Tu m'as déclaré, tu m'as dit, je veux vivre l'évangile dans ma société en quête de sens.
Oui, c'est quelque chose qui, bah, c'est très important pour moi. Hein, j'allais dire, c'est un peu vocation slash mission, hein, un peu entre les deux. C'est cette idée. Moi, j'ai une phrase que j'ai utilisée dernièrement, qui est l'idée de façonner un nouvel imaginaire pour l'Église dans une société en quête de sens. Ouais. Et donc, j'aime bien cette notion de façonner, puisqu'on est dans le domaine créatif, mais aussi dans l'idée de posture, de façon de faire. Travailler sur l'imaginaire, c'est quand même quelque chose qui me parle, avec voilà, cette idée-là d'abstraction, de réflexion, d'ouverture, de sortir de la case. Et puis, la quête de sens, elle est, voilà, on a. C'est acquis par beaucoup qu'il y a une crise de sens hein, dans notre société, notamment occidentale, où à la fois professionnelle, à la fois personnelle, existentielle, le pourquoi j'existe, si on le titille un peu auprès de personnes qui sont un peu sensibles dans notre société, il y a des personnes qui sont en grande souffrance, hein, qui ont aucun sens à leur vie. Donc, ça, alors, je vais dire, le mouvement évangélique, il va se dire, oui, on va te donner du sens en annonçant Jésus. Oui, c'est sûr. Il y a aussi, il y a plein de façons en fait, de faire. Donc, c'est de la façon. Il y a plein de manières d'apporter de ce sens-là. Et donc, j'essaie d'y contribuer, en tout cas, dans l'idée de vivre l'évangile dans cette posture aimante auprès de différentes type de personnes, des créatifs, ça en fait partie.
Oui, parce que étant donné que t'as pas grandi dans l'église, ta culture n'a pas été façonnée en culture ecclésiale du 21e siècle, mais tu as eu un choc des cultures, j'imagine.
Ouais. Oui, bah moi j'ai toujours des chocs de culture, hein, toujours. Il y a des choses que je pige pas, il y a des choses qui m'hérissent le poil. J'apprends, j'ai été très relou pendant longtemps, un peu quand même condescendant pendant un autre moment. Maintenant, j'essaye d'apprendre voilà, avoir de la délicatesse en fait auprès de mes frères et sœurs qui ont des expressions de foi différentes. Des fois, c'est une discipline, des fois, c'est comme ça. Mais voilà, il y a des choses qui m'interpellent toujours et puis qui sont à raison, des fois. Hein. Oui, c'est vrai que c'est pas normal que ça fonctionne comme ça, c'est un gros délire, quoi. Mais voilà, faut arriver à trouver le dosage pour accompagner, faire comprendre. Enfin, c'est de la relation humaine après.
Moi, je crois que c'est important qu'on puisse continuer à questionner, parce que questionner, c'est pas remettre en cause, c'est justement chercher du sens. Et des fois, il y a des choses, on fait ça depuis tellement longtemps qu'on ne sait même plus pourquoi on le fait.
Ben voilà, ben, c'est un petit peu peut-être le fondement de ma vocation, de questionner. Voilà. D'ailleurs, dans les différents travaux que j'ai pu développer, on n'a pas trop l'espace pour en parler, mais il y a des mots-clés comme questionner, contempler, converser, qui revenaient beaucoup. Et la notion du questionnement est pour moi fondamentale. Pour en fait rentrer en relation avec l'autre, hein, que ce soit dans l'église ou en dehors ou entre les deux ou peu importe, parce que vous avez bien compris que j'avais du mal avec les boîtes. Donc évidemment, si je suis dans l'église, je vais vouloir en sortir. Si je suis dehors, je veux y rentrer. Donc bref, voilà. Maintenant, on a l'explication pourquoi. Et donc, ce qui en fait un profil intéressant pour dire oui, mais pourquoi est-ce qu'on fait comme ci? Pourquoi est-ce que on ne ferait pas autrement, pourquoi est-ce qu'on ne s'inspirait pas de tel truc, et puis faire des associations d'idées, des choses comme ça. C'est un peu. C'est intéressant en fait, voilà, ça apporte de l'eau au moulin.
Est-ce que justement cette capacité à avoir un pas de côté, à être un peu en marge ou avoir un regard différent, c'est pas aussi peut-être une responsabilité de... Alors je voudrais pas mettre de poids hein, sur les gens, je réfléchis en même temps que je te parle, mais est-ce que c'est pas aussi une responsabilité ben, d'aller explorer des choses que d'autres n'ont même pas pensé ou n'ont pas osé explorer? Des fois aller dans des endroits surprenants, Christ le premier aller dans des endroits surprenants. Est-ce que on peut pas se servir aussi de cet exemple et aller dans des sphères de la société où on ne se serait pas imaginé qu'on puisse incarner Christ dans ces endroits de la société?
Oui, j'allais même plus loin. Je pense que c'est l'esprit créatif et le regard poétique sur les choses qui va nous permettre de résoudre la quête de sens dans notre société. Voilà, je suis un peu radical, mais j'ai un peu réfléchi au sujet. Et clairement, je pense que si on considère Et ça, c'est les travaux. Je suis un big up à Imago Dei, la structure Imago Dei qui travaille avec les professionnels justement en quête de sens, avec lesquels enfin, c'est une association dans laquelle je suis très investi. Et on réfléchit beaucoup en triangle. On peut imaginer un triangle, du coup, à chaque face, il y aurait une face où il y aurait l'esprit créatif, le profil artistique, une face. Le profil plus pastoral d'accompagnement, l'organisateur de communauté. Et puis une face des professionnels, l'intendance des ressources, ceux qui voilà, plus gèrent le matériel. Et actuellement, notamment dans l'Église, il y a, enfin, c'est très développé, l'esprit, enfin, la dimension pastorale, évidemment. C'est assez développé l'aspect matériel, quand même, on a les pieds sur terre, on n'est pas là pour déconner, hein, on est aussi diacre. Mais alors l'aspect esprit créatif, ben ça, j'allais dire ça pêche beaucoup, c'est un mauvais jeu de mots, mais ça manque en fait. Et en fait, je suis assez convaincu que l'esprit créatif, là quand je dis esprit, hein, on s'entend, c'est la façon de penser créatif, ce pas de côté, cette façon de penser disruptive tout le temps, voilà, ben, je pense que c'est clairement enfin, le profil de Christ. Hein, il est hyper créatif, en fait. Tout le temps en train de prendre le pas de côté. On vous a dit que, bam, moi je vous dis. Voilà, il est tout le temps en train de jouer avec cette idée de frontières, de redéfinir les frontières. Enfin, c'est complètement le rôle d'un artiste même dans la société. Hein. Donc voilà, c'est assez intéressant de voir ça chez Chris, quoi. On pourrait
Là,
développer.
juste. Oui, on pourrait développer et je pense que tu vas revenir
Ouais.
pour nous parler de ça dans une prochaine semaine. J'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie de te faire parler plus. Mais en attendant, je voudrais déjà te remercier d'avoir pris le temps de discuter avec nous. Et puis voilà, tout simplement.
Bah, avec plaisir. J'ai plein d'encouragement pour les ZEB dans l'église. Plein on a des profils atypiques, c'est souvent pas facile à vivre. On se sent souvent seul. On a souvent des personnes en face qui on se capte pas. On a l'impression que on est très clair et en fait ça percute pas. Et ça peut générer beaucoup de frustration. Ça peut générer des blessures, ça peut générer même un dégoût pour l'Église. Mais n'oublions pas que le Christ y s'est accroché. N'oublions pas que quand même le Dieu de l'univers, il a quand même, il nous a, avec ce, enfin, dans ce process de subsidiarité, il a quand même nous valorise quoi. Enfin, il nous a permis d'être qui on est. Et donc, à notre tour, peut-être qu'on peut aussi valoriser les autres autour de nous et prendre soin d'eux. Donc, c'est peut-être le petit encouragement pour les zèbres qui seraient un peu découragés ou dégoûtés des gens, notamment dans l'église, qui comprennent rien. Bah ouais, bah Dieu lui-même nous regarde souvent et dit, ils ont rien capté. Vraiment, vraiment rien capté. C'est insupportable.
Eh bien, merci pour cette dernière note. Je ne sais pas si elle est positive, mais elle est là.
Elle est là.
Sois béni, Estienne. À bientôt.
Merci, salut.